Heureuse révolte. Une balade radiophonique. Heureuse révolte sur R d'Iwa. Sur la route, en chemin, quelque part, au hasard, un train part quelque part. Ne plus avoir peur de la mort. Pardon, raconte-moi, toi, au hasard, quelque part, ce qui te rend plus fort, 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 ce qui te rend plus fort.
Il serait temps de s'y mettre.
Suerte.
Suerte. Obrigado.
Ciao.
Ce jour-là, c'était un jeudi, je m'étais décidé à tendre le pouce à la sortie de Die en direction de Gap, en direction des montagnes et du grand air. Sans doute rencontrerai-je celui ou celle qui prendrait le temps de me parler de ses bonheurs, de ses rêves, de ses révoltes. Jour de manif contre la loi travail de Macron, il faut bien avouer que je prenais la direction opposée à la ville de Valence, où de nombreux fainéants allaient défendre les acquis sociaux pour lesquels d'autres fainéants avaient lutté dans le passé. En proie aux doutes et aux questionnements quant au sens de la direction que je prenais et des vraies raisons qui m'éloignaient du cortège, je ressentais malgré tout sur le bord de cette nationale, le bonheur des départs en voyage. Un voyage pour quelques heures, peut-être plus. Je n'ai pas attendu plus de 3 minutes avant qu'un véhicule s'arrête sur le bas-côté. Un camion 9 places avec son chauffeur et son passager.
C'est pour moi ? Ah, salut. Merci. Vous allez où ? À Châtillon ? Ben écoutez, je monte avec vous si ça vous va. Super. Je monte où ?
En route, les présentations faites,
merci.
Loïc, le passager tout blond, acceptait de témoigner au micro que je lui tendais. Arrivé à Glandage, le chauffeur, Robin, son cousin, nous proposer le salon comme studio d'enregistrement. Vous l'entendrez, Loïc n'est pas seulement un grand voyageur. Du Népal au Brésil, en passant par le Pérou, le Mexique ou l'Argentine, celui-ci a réellement vécu au sein de communautés et de villages indigènes auprès desquels il aura développé toute une connaissance et une réflexion passionnante que je vous laisse maintenant. Écoutez.
Ouais, je voulais dire aussi, moi ça fait un moment que je parle plus trop français, donc je vais essayer de parler un français le plus correct. Mais je pense en espagnol ou en portugais, et ensuite je traduis au français. Bon bah moi je m'appelle Loïc, j'ai 31 ans, et on va dire, pour me présenter, Il y a 7 ans, je travaillais à Paris. J'avais un travail d'animateur 3D. Je travaillais sur Arthur et les Minimoys, sur les films en 3D. Je pensais que c'était ma passion. Et puis je me suis vite rendu compte que non, que Alors que je cherchais un travail créatif, j'étais dans une entreprise avec une hiérarchie, avec beaucoup de graphistes et des chefs qui ordonnent et qui commandent. Et que ça avait rien du tout à voir avec de la création, sinon avec de la production et industrielle, non? Donc voilà, ça m'a vite saoulé. La vie quotidienne à Paris, c'est pas un truc qui m'a trop branché. Et du coup, j'ai quitté le travail et je suis parti dans un premier temps. Je suis parti 5 mois au Népal, en Inde et au Népal, pour voir autre chose. Et pour moi, là, ça a été un moment important de me rendre compte que c'était la première fois que je voyageais loin. Et c'était la première fois où je me suis rendu compte qu'en fait, c'était beaucoup plus simple, la vie, que juste en se lançant, en faisant confiance un peu en la vie et en ayant de bonnes intentions. Toutes les rencontres se mettaient en place. Les gens qui t'invitent, alors à un moment, des gens qui m'ont invité pour être prof dans une école, des gens qui m'invitent, où j'ai participé dans un orphelinat. Et toutes les rencontres, comme ça, ça s'est mis sur le chemin. Donc là, c'était un moment où je me suis rendu compte où en fait, la vie, c'est beaucoup plus simple. Il n'y a pas tellement à se prendre la tête. Juste se lancer et puis les choses se mettent en place. Et puis, je suis quand même revenu en France avec mon cousin, avec qui on s'est rencontré là dans la voiture. On avait comme plan d'aller en Amérique latine pour rencontrer, pour connaître un peu plus des expériences, d'autres modes de vie, et aussi d'autres expériences de résistance indigène, de mouvements sociaux. Et donc on est parti ensemble au Mexique. J'y suis resté 4 ans. Et donc là, ça m'a beaucoup changé la conception aussi du bonheur. Un petit peu la même chose que les choses que j'avais vues au Népal, de les gens qui ont le moins sont les gens qui vont le plus partager. En règle vraiment absolue, quoi. Hein. Tu vois, je m'étais fait pote avec un gamin, Roy. On jouait au cricket dans la rue en Inde tous les jours, et puis un jour il m'a invité à boire le thé chez lui. Ils étaient 13 à vivre dans une pièce de 2 mètres par 3 mètres, quoi. Et il m'a invité à boire le thé, et la famille super heureuse de me rencontrer, et sans arrière-pensée, sans juste partager un moment de boire le thé ensemble, et c'est tout, quoi. Donc il y a des choses comme ça où tu te dis, waouh. On se complique beaucoup la vie en Europe, on se complique beaucoup la vie en France. J'ai reçu vraiment beaucoup de leçons de vie de ces gens qui avaient une vie simple, qui vivaient avec très peu dans des conditions de pauvreté. Parce qu'il y a quand même un truc où j'ai vraiment beaucoup appris, qui sont des villages indigènes. Au Mexique, où je suis arrivé pour travailler avec une organisation avec les villages indigènes, ou d'un point de vue occidental, on va dire que ils vivent dans des conditions de pauvreté. Et en fait, c'est juste un changement de point de vue, un changement de paradigme. Que pour moi, il y a une richesse incroyable dans les villages indigènes, où il n'y a pas besoin de beaucoup pour vivre bien. Un mode de vie qu'en Amérique latine, ils appellent le buen vivir, le vivre bien. Où le vivre bien, c'est vivre en communauté. C'est vivre en... Tout ce qu'on a besoin, c'est la terre qui le produit. Et tous les besoins qu'on a pour être heureux, on y répond de forme collective. Pour moi, la chose vraiment importante que j'ai appris avec les villages indigènes, c'est sur les êtres humains. Qu'on a cette capacité de répondre avec autonomie à tous nos besoins. Dans les êtres humains, il y a cette capacité, il y a cette force de ne pas dépendre d'un système, d'institutions, d'écoles, de prisons, de policiers, de toutes ces choses-là, toutes ces règles compliquées. Sinon, qu'il y a une capacité pour vivre en harmonie et heureux. Et que cette racine du bonheur, elle est présente dans les villages indigènes. qui ne sont pas complètement déconnectés de ce mode de là, de ce mode de vie simple et heureux. Et donc, pour moi, ça a été vachement fort de voir ça. Des villages où, pareil, les gens, ils n'ont pas forcément... Tu vois, il y a des problèmes dans la vie quotidienne. Il y a des enfants qui ont migré, qui sont aux États-Unis pour aller travailler. Il y en a, ça fait des années qu'on n'a plus de nouvelles d'eux parce qu'on ne sait pas s'ils ont réussi à passer la frontière ou pas. Il y a vraiment des problèmes et des drames importants. Mais ça n'empêche qu'il y a une joie quotidienne qui est incroyable. De partager tout, de partager la tortilla, la galette de maïs, de partager tout ce que les gens ont, ça va se partager entre tout le monde et ça va être ça la grande richesse, quoi, le partage. Et une sagesse et un mode de vie qui donne pour apprendre, quoi. Toutes les décisions qui sont prises en assemblée, non ? Donc on n'a pas besoin de personnes, de politiciens qui soient professionnalisés dans « ça va être ta carrière, être politicien ». Sinon, la politique, c'est se soucier du bien commun. Il sait quelque chose qui touche à tout le monde, qui est rotatif, non ? En assemblée, chaque année, on va décider les rôles de chacun, les comités pour s'occuper de l'éducation, le comité des fêtes, les comités d'église, donc tout ce qui touche au bien commun de la vie du village, c'est de façon commune que c'est pris en charge et que c'est divisé, non ? Il y a des polices communautaires, la sécurité, c'est quelque chose qui touche à tout le monde. C'est pas quelques-uns qui vont faire carrière là-dedans, non ? Sinon, d'ailleurs, dans les villages indigènes, donc je parle un peu là du sud du Mexique à Oaxaca, où il y a encore les us et coutumes qui régissent les villages, quand on a 18 ans, c'est obligatoire de commencer à rendre les services pour le village. Et donc le premier service à faire, ça va être la police communautaire. On a fait un voyage, on a commencé en Colombie, jusqu'en Argentine, en allant rencontrer des mouvements sociaux, en passant du temps avec des villages indigènes, toujours en essayant de faire cet échange de services. Donc par exemple, on est arrivé au Pérou avec une organisation qui travaille avec les communautés Quechua Lamas dans la jungle amazonienne. Et puis on a commencé à faire un échange. Moi, je travaillais avec vidéo, donc faire des vidéos qui aident l'organisation. L'organisation essaye de impulser, comment on dit ça, de mettre en avant toutes les traditions qui sont en train de se perdre dans les villages. Donc il y a des villages, par exemple, qui ont la tradition de la choba choba. Choba choba, ça veut dire de main à main. Et c'est une famille qui a besoin de semer du riz. Elle invite toutes les familles du village pour aller semer le riz. Cette famille-là met la chicha, qui est une boisson de maïs fermentée. Elle fait à manger pour tout le monde. Et du coup, c'est toutes les familles qui viennent travailler sur le terrain. Et puis, le jour suivant, ils vont sur le terrain d'une autre famille. Et puis, ils font comme ça en passant de famille en famille, non ? Donc c'est un mode collectif de travailler, c'est pareil pour faire une maison. Une maison, ça se fait pas tout seul, ils invitent tout le monde pour aller chercher les palmes, pour aller couper, parce que tous les matériaux sont disponibles dans la jungle, donc ils vont couper les lianes, ils vont couper les palmes pour faire le toit, ils vont couper les arbres, et puis en une journée ou en deux jours, entre tout le monde, ils vont faire une grande maison. Et donc la famille qui a besoin de cette maison-là, à chaque fois, met la nourriture et la chicha, cette boisson de maïs fermentée. Et pour eux, le choba choba, c'est une fête, quoi. Et ça, c'est génial. C'est aussi une autre conception du travail. Où le travail, tiens, pour le rappeler, le mot travail, ça vient d'un instrument de torture qui était utilisé pour torturer les esclaves à l'époque des Romains. Et donc là, c'est complètement une autre conception de ce que c'est que le travail, parce que quand on est dans une choba choba, donc moi j'ai participé plusieurs fois dans des choba choba, j'ai fait une vidéo d'ailleurs, je pourrais te passer le lien, elle est sur internet, sur les choba choba, et ça ressemble à une fête quoi. Tout le monde est en train de rigoler, tout le monde fait des blagues tout le temps, donc avec une machette dans la main, en train de couper de l'herbe, en train de transpirer parce qu'il fait chaud ou quoi, mais toujours en train de déconner, toujours en train de faire des blagues. Des blagues vachement ouvertes aussi sur le sexe. Autant les femmes que les hommes. Autant des deux côtés, ça se charrie à fond, quoi. Ça s'arrête pour manger, tout le monde mange ensemble. Enfin, c'est vraiment une grande fête, quoi. Et eux-mêmes, ils te le disent. Choba choba, c'est couchi couchi, c'est bonheur. C'est travailler en famille. Avec tout le monde du village, c'est une grande fête, on rigole, on est ensemble, et c'est ça, quoi. Et donc, la vision du travail, c'est un moment collectif, et c'est un moment joyeux. Et un autre truc qui est impressionnant, c'est que la récolte, c'est pareil. La récolte, ils vont la distribuer entre tous ceux qui ont participé pour semer. Là, je parle quand même de village indigène, où le système est quand même déjà entré, où ça fait beaucoup de dégâts, mais ils sont à un niveau multiculturel, quoi. C'est pas seulement la culture indigène. Ils sont à un niveau multiculturel dans le sens que les enfants vont à l'école à l'extérieur du village. Tout le monde, enfin beaucoup ont un téléphone portable dans le village, même s'il n'y a pas de réseau téléphone. Il y a un téléphone portable. Les nouveautés du système arrivent dans le village, donc surtout en mal qu'en bien, on va dire. Il y a cette multiculturelle, non, ils sont conscients de c'est quoi le système à l'extérieur. Il y a beaucoup d'intérêt de vouloir les nouveautés du système parce que c'est les choses qui sont nouveaux pour eux. Mais de préserver la culture qui est propre. Donc l'organisation avec laquelle je suis arrivé là-bas au Pérou, ils travaillaient beaucoup pour préserver cette culture. Pour les villages où il n'y a plus de choba choba, parce qu'il y a des villages où ils ont arrêté de faire la choba choba, organiser des rencontres, diffuser cette vidéo, ce documentaire que j'ai fait sur les choba choba, pour essayer de relancer le débat et... incentivar, je sais pas comment on dit, redonner l'esprit d'initiative de récupérer ces traditions-là, quoi. Donc voilà, là pareil, pour moi, ça a été fort, cette notion de c'est quoi le bonheur. Tu vois que déjà, c'est une communauté, mais c'est pas tout le monde et tout le monde. Chaque famille a son propre terrain, gère son terrain, parce qu'il y a beaucoup de familles où il y a des enfants qui ont migré, qui sont partis à la capitale. Il y a des familles qui décident de vendre leur terrain. Il y a des familles qui arrêtent de travailler, la terre. Il y a des choses graves qui se passent aussi, non ? Des entreprises qui sèment les palmeras pour faire de l'huile de palme. Donc ça, c'est un massacre vachement important là-bas. Il y a des gens pareils qui, pour... Le cacao, le café, c'est à la mode, ça rapporte. Enfin, c'est à la mode, tu vois. C'est un commerce sûr. Donc, qui arrête de semer de tout et se met à semer seulement du cacao et seulement du café. Et d'ailleurs, tu vois, ça fait penser, non ? Ça va être Oro Verde, qui est une entreprise comme ça de café. Café organique, commerce équitable. Donc, qui se vend comme ça avec une très bonne image à l'extérieur. Ça n'empêche que c'est un commerce qui favorise le monocultivo. Donc c'est des gens qui vont arrêter de semer toute une diversité incroyable de plantes, de fruits et de légumes, pour se concentrer seulement dans le café, qui va être vendu comme un café, commerce équitable et tout ça. Donc bon, pour avoir un peu l'esprit critique aussi sur tout ce qu'on appelle le commerce équitable et la sustentabilidad, parce qu'il faut à chaque fois réellement se poser la question sur comment est-ce que c'est traité ce sujet-là chez les gens, chez les gens qui produisent ça.
vis au Brésil ?
Ouais. Bah, là-bas, je suis dans un lieu où je suis arrivé en voyage en pensant rester juste une semaine. Un terrain dans la montagne qui s'appelle le Pic du Colibri, où il y a un peu de travail avec la permaculture, agroforestal, un peu des jardins. Mais le principal intérêt de l'endroit, c'est un lieu de ce qu'ils appellent une maison spirituelle, quoi. Donc où on reçoit des gens pour donner des thérapies, pour faire des soins. En thérapie, je pense qu'ici le nom, ça serait en thérapie holistique, non ? Cette vision intégrale de la santé, de si j'attrape une maladie, je ne sais pas, essayer de changer la pièce qui ne marche pas, sinon comprendre que c'est un message, de tout le corps, de tout l'esprit, de toutes les émotions. Donc recevoir la maladie comme une bénédiction, comme un bon message, oui. Comme quelque chose de bon qui nous indique qu'il faut changer quelque chose dans notre façon de voir la vie. Donc un peu cette vision de la santé qui est vachement reliée avec la médecine indigène, avec la médecine chamanique et la spiritualité afro-brésilienne. Voilà, tout ça dans ce lieu-là, qui est pour moi un endroit d'apprentissage vachement important. Ouais, j'apprends sur cette spiritualité qui n'est pas une spiritualité de croire parce qu'on le lit ou de croire parce que ça sonne bien, sinon de faire l'expérience, une spiritualité qui se vit. Ce qui est un peu la définition du chamanisme, où le chamanisme, c'est pas forcément de prendre des plantes hallucinogènes pour se connecter avec les esprits. Le chamanisme, c'est vivre l'expérience, ne faire qu'un avec l'expérience, ne pas la penser, non ? Marcher dans la forêt, c'est marcher dans la forêt, ressentir avec tes pieds, ressentir les odeurs, voir toutes les couleurs. Donc c'est une spiritualité qui appelle à la présence, à être complètement présent de tous ses sens, et sentir. Et avec la connexion même avec la nature, arrivent les enseignements spirituels. Il n'y a pas de gourou qui vient te dire comment est-ce que tu dois croire, comment est-ce que tu dois prier. Sinon, c'est toi retrouver ta propre connexion avec la nature. Et dans cette connexion-là, recevoir les enseignements, recevoir les messages qui arrivent, quoi. Le chamanisme, c'est aussi ça, de se reconnecter, tu vois, avec les sensations, avec le goût, avec les rêves. Et moi, là, ça fait déjà quelques semaines que j'arrête pas de... Je fais plusieurs rêves du romarin. Je rêve de personnes qui me disent « il faut que tu prennes du romarin » ou « je rêve de la plante du romarin ». Je croise des gens qui m'offrent un bout de romarin. Romain, hier soir, fait un thé au romarin. Donc voilà. OK, il y a quelque chose à apprendre. Il faut que je travaille avec le romarin. Alors, on y va. C'est pas seulement penser à « le romarin ». C'est bon pour la mémoire, c'est bon pour les voies respiratoires, pour la grippe. Non, le romarin, c'est bon pour la joie. Donc c'est ça, mon travail, il est avec la joie et accepter la joie, cette chaleur qui vient du romarin que j'ai besoin, non ? Qui, pour moi, c'est me reconnecter avec mes racines, qui est une plante qui pousse là où je suis né aussi. Donc retrouver cette relation directe avec les plantes, sans passer par un dictionnaire ou par une encyclopédie, sinon, qu'est-ce qu'elle me dit cette plante-là ? Comment est-ce qu'elle me parle ? À quoi est-ce qu'elle me renvoie de mon enfance ? Comment est-ce que je la sens ? Comment est-ce que je la rêve ? Non ? Et ça, c'est le genre de spiritualité qu'on a tous besoin, d'une reconnexion directe avec l'expérience, sans passer par un dogme, sans passer par des règles, sinon sentir cette spiritualité-là. De récupérer des modes de vie collectifs pour réapprendre à être heureux, pour se sortir de tous ces petits problèmes personnels, parce que si on reste tout seul dans ces problèmes personnels, ça nous paraît toujours des problèmes et des montagnes et des montagnes, alors que si on se concentre un peu plus dans le collectif, eh ben, on va s'oublier de ses propres problèmes, ou alors ses propres problèmes se résolvent de façon collective. Et puis on se rend compte qu'on est plein à avoir ces mêmes problèmes-là, non? Ah, moi, j'ai pas envie de travailler. Ouais, j'ai pas envie de travailler. Si je me retrouve avec 2, 3, 4, 5 personnes qui n'ont pas envie de travailler, eh ben, ensemble, on peut faire une coopérative, se mettre à produire des choses qu'on a envie, et ne pas travailler dans le sens, on travaille pour personne, on fait ce qui nous plaît, et puis on arrive à se soutenir. Donc, pour moi, c'est ça, le bonheur, premièrement, c'est reconnecter avec le collectif, s'oublier de ses problèmes personnels, parce qu'il n'y a rien qui est personnel, tout est collectif. Et l'autre chemin, c'est le chemin à l'intérieur. Savoir pouvoir répondre à ces questions de qui je suis, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce qui me plaît. Et que ça, c'est un chemin que personne ne pourra te donner de réponse. Aucun gourou, aucun livre, aucune religion. C'est un chemin que toi seul, tu dois faire à l'intérieur. Et que pour moi, il y a beaucoup à apprendre de cette connexion chamanique avec la vie, qui est l'expérience directe. Aller marcher dans la montagne, connecter avec les éléments, sentir et ne plus penser. Non, écouter plus que parler. Donc voilà, je pense que le bonheur, pour moi, c'est un équilibre entre le chemin vers l'extérieur, qui va être comment est-ce qu'on se soucie du bien commun, de la politique comme le sens premier de le bien commun, et donc qui est un travail collectif entre tout le monde. Et c'est quoi ce chemin plus introspectif vers l'intérieur? Comment est-ce que je peux me connaître, moi, mon être, profondément, apprendre à me soigner moi-même, et donc qui va un chemin à travers le sentir et la connexion directe avec la vie. Rêver, c'est un monde meilleur, un monde différent, un monde où, comme disent les apatistes, où il y a de la place pour beaucoup d'autres mondes, beaucoup de formes de vie, beaucoup de façons de s'organiser. Je me rappelle surtout d'une sensation que j'avais eue quand j'étais jeune, ou quand j'étais plus jeune, où vraiment ce que j'aimais le plus dans la vie, c'était passer du temps avec mes amis. Je voyais rien d'autre plus important que ça. Et je me disais, mais attends, imagine-toi si tu vis dans un village et le boulanger, c'est ton pote. Et genre, ceux qui sont à l'école, c'est tes amis. Et tout le monde, c'est tes amis. Genre, le village entier, ce sont juste tous tes amis. Ça doit être absolument parfait, quoi, de vivre ta vie qu'avec des amis. Et je me dis que ça, c'est un peu la chose qui me fait rêver. Pas qu'il faut qu'on soit d'accord avec tout le monde, mais qu'il y ait au moins la sensation qu'on est en train de construire ensemble quelque chose de collectif, qui va dans le même sens. Moi, ce qui me fait rêver, c'est ça. Pas une vie en communauté de... On vit tous sur le même terrain parce qu'on est tous d'accord sur la même façon de vivre, mais une vie où il y a beaucoup de communautaires, où on vit chacun suivant comment on a envie de vivre, mais il y a des projets communautaires qui nous unissent. Et principalement sur les nécessités communes. On a besoin d'éducation, on a besoin d'apprendre. Comment est-ce qu'on s'organise pour ne pas avoir besoin d'école? On a besoin de se soigner, de savoir se soigner. On n'a pas besoin d'hôpitaux, mais sinon on a besoin de savoir se soigner. Comment est-ce qu'on s'organise entre tout le monde pour récupérer notre capacité autonome à se soigner? On a besoin de se protéger ou de se sentir en sécurité. Comment est-ce qu'on récupère aussi cette capacité autonome de faire notre propre justice, d'être organisé pour être protégé, s'il y a besoin d'être protégé, non? Et puis, on a besoin de décider sur la vie commune. Comment est-ce qu'on s'organise pour prendre des décisions sans que ça soit un pouvoir centralisé dans quelques personnes, sinon que ça soit un pouvoir horizontal ou qui tourne entre tout le monde. On va dire que ça, c'est un peu le rêve, de pouvoir avancer dans cette direction-là. C'est pas un truc qui se fait du jour au lendemain, mais c'est un truc qui se fait en commençant un petit peu, hein, en commençant par ce qui nous intéresse, en commençant par en faisant des programmes de radio différents, en se préoccupant de sa santé d'une autre façon. Je sais pas. En tout cas, voilà. Ça, ce qui me fait rêver, c'est ça, d'être dans la construction d'un autre monde et que ça puisse être une pratique quotidienne. Que ça soit pas seulement des grands discours et quand on arrivera à convaincre toute la masse du village, on pourra faire la révolution et on pourra enfin profiter des fruits de la révolution. Sinon, non. Comment est-ce qu'on fait une révolution quotidienne? Comment dans ma vie quotidienne, dans mes actions de tous les jours, je change des petites habitudes pour être déjà dans le monde que j'ai envie de vivre, le vivre dès aujourd'hui, quoi. Pour que le bonheur soit le chemin, qu'il n'y ait pas un chemin pour arriver au bonheur, sinon je suis déjà heureux dans le chemin que je fais, quoi.
Ninguém ouviu soluçar de dor no canto do Brasil. Lamento triste sempre ecoou, desde que o índio guerreiro foi pro cativeiro e de lá cantou. Negro entoou um canto de revolta pelos ares, no quilombo dos palmares onde se refugiou.
Plus important, c'est s'il y a une chose qui me révolte en moi, parce que ce qui me révolte à l'extérieur, c'est les choses qui me révoltent aussi en moi, c'est la négativité, se plaindre. C'est vraiment un crime contre l'humanité que de se plaindre, que d'oublier que les mots et les pensées ont un pouvoir sur nos vies. Elles construisent les lunettes avec lesquelles on voit la vie, avec laquelle on vit la vie. Et si on construit ses lunettes à chaque fois d'un point de vue négatif, en se plaignant constamment, et ben on vit réellement une vie qui n'est pas agréable, qui n'est pas heureuse. Et je pense que c'est important d'arrêter de se plaindre et de commencer à croire qu'on peut construire autre chose. On peut avancer, quoi. D'arrêter d'attendre les bonnes conditions, d'arrêter d'attendre le bon endroit, non? Sinon, comme ils disent, le bon endroit c'est ici et le bon moment c'est maintenant. Et commencer à faire ce qu'on a envie de faire. Au fond, on sait tous ce dont on a envie de faire. Écouter un petit peu la petite voix là qui parle, qui est un peu étouffée, mais on sait ce qu'on a envie de faire. C'est être capable de voir ses problèmes et puis se convaincre qu'on n'est pas capable de les changer et que c'est pas le bon moment et rester dans l'immobilité. Et il n'y a rien de pire, parce que c'est un truc qui fait souffrir d'être immobile, non?
Je sais pas trop quoi dire. Merveilleux, il fait un grand soleil. Village de Glandage et calme. Tout est paisible. Et moi je me sens heureux. Je sais pas si c'est peut-être même pas ça. C'est même pas là. De marcher. Salut Loïc, c'était magnifique de faire ta connaissance. Quelle chance de te croiser. Et puis de rencontrer en même temps, tous ces gens dont tu m'as parlé. moi, il y a les montagnes là qui dominent l'Andage, avec une très jolie crête. Ça donne envie d'aller marcher, de monter sur ces crêtes, de danser, de courir, d'être... Ouais, le ciel est bleu. C'est fou ça. Qu'est-ce que c'est beau par là? Je sais pas si je vais... Qu'est-ce que je peux faire? Je crois que je vais prendre le temps de marcher, profiter de ce soleil, profiter de ce bonheur. Profiter de cette rencontre.
Y a-t-il quelque chose sur Terre qui ait une signification et qui puisse même changer le cours des événements, non seulement sur Terre, mais également dans d'autres mondes? Ai-je demandé à mon maître. Oui, m'a répondu mon maître. Et quoi donc, ai-je demandé? C'est... A commencé mon maître. Mais soudain, il s'est tu. J'étais là et attendais avec impatience sa réponse. Et lui se taisait. Moi aussi, j'étais là et je me taisais. Lui aussi se taisait. Moi aussi, j'étais là et je me taisais. Et lui aussi se taisait. Nous étions là tous les deux. Et nous nous taisions. Oh là là! Nous sommes là tous les deux et nous nous taisons. Ouloulou! Oui, oui, nous sommes là tous les deux et nous nous taisons.
Je sais pas trop quoi dire en fait, hein, à dire vrai. Ça, ça donne envie de vivre, ça donne envie de continuer. J'ai envie de rendre hommage. Ça me donne envie de rendre hommage à toutes les personnes qui se sont mobilisées autour du week-end Curieuse Démocratie à Saillant, le week-end dernier. Et j'ai envie de dédier cette première émission à tous ces gens merveilleux qui étaient à Saillant pendant ces rencontres. Ouais. Salut les amis.
Heureuse révolte sur RDIWA. J'arrive.
Quel moment t'amène?
Si je te parle de bonheur et de révolte, ça t'inspire quoi?
Bonheur et révolte. Waouh. Déjà, quand on est révolté, c'est pas nécessairement qu'on est très heureux. Enfin, c'est plutôt qu'on est indigné et souvent qu'on se sent impuissant. Et si on trouve du bonheur dans la révolte, c'est plutôt quand on devient actif, en fait, et quand on commence à partager son indignation et sa volonté de changer les choses avec d'autres. C'est souvent ça. C'est à partir du moment où je peux commencer à faire face et être dans une dynamique collective, en fait, que je peux commencer à me sentir bien et même, de fait, effectivement, à me sentir heureux d'agir pour sortir de cette situation qui est indignante, qui est révoltante.
Et du coup, cette révolte, elle nous amène à être créateurs?
Je crois, oui. Elle nous amène à être actifs. Et ben, de fait, très souvent, quand on est indigné, quand on est révolté par quelque chose, on peut compter que sur soi-même pour faire face. Sur soi-même, ça peut être un collectif, ce soi. Mais c'est généralement l'injustice qui nous révolte. Et en fait, c'est l'injustice, elle vient des puissants, en général. Et du coup, on ne peut pas compter sur une aide qui viendrait d'en haut. Ça veut dire qu'il faut soit se bouger et trouver des alliés, partager en fait ce qu'on ressent, partager la situation et du coup, partager, se mettre en collectif pour agir. Et c'est à partir du moment en fait où on peut partager, que ce soit ce qu'on ressent ou l'action, que là, effectivement, on peut éprouver une joie d'être dans une dynamique qui est plus de passivité et de détresse, mais une dynamique qui renverse, qui vise à renverser les choses. Et le partage à ce niveau-là, il peut être vraiment fantastique, parce qu'effectivement, on crée quelque chose de nouveau à ce moment-là et on le fait de façon qui est immédiatement partagée puisqu'on le fait collectivement.
Le collectif est là pour soutenir le bonheur?
Je ne sais pas s'il est là pour ça, mais en tout cas, il est, il permet ce bonheur-là, de l'action, de la fin de l'isolement et au contraire... tous ces liens qui se tissent à travers une dynamique commune, un but commun, des moyens qu'on réfléchit ensemble et qu'on met en œuvre ensemble. Et du coup, ça peut être effectivement vécu aussi comme une fête. Et c'est une sorte de fête qui vient faire pièce justement à ce sentiment d'indignation et d'impuissance dont je parlais tout à l'heure. Qui est en fait un sentiment de détresse. Et là, le fait de réagir, potentiellement, c'est vraiment un bonheur qui se constitue, quoi. De façon générale, le faire ensemble dans l'adversité, c'est quelque chose qui crée des liens qui peuvent être très forts et qui sont en soi une source de joie et de... quel terme utiliser ? C'est quelque chose qui est vécu positivement, vraiment, et qui comble en général, enfin qui va à l'encontre justement de nos détresses d'isolement, de solitude et de... Face à l'adversité, on a tendance à se recroqueviller sur soi, à se mettre une carapace, à s'isoler des autres. Alors que ce dont on a besoin, au contraire... c'est de communiquer et de créer du commun à ce moment-là. Plus on se heurte en fait à des forces hostiles, plus on a besoin en fait de s'épauler les uns les autres, de se sentir épaulé et d'être dans l'action rester à subir, c'est quelque chose qui est extrêmement destructeur pour soi-même, de quoi que ce soit qu'on ait en face, que ce soit l'injustice ou que ce soit un malheur. Ou... Et c'est pour ça qu'effectivement, de la révolte peut naître réellement de la joie.
C'était Heureuse Révolte, une émission bricolée par Vincent Auran. Merci à l'équipe de RDIWA. Merci à Yves Bonnardel et Christophe Guetta. Merci à Agathe et Mao. Merci à tous ceux qui inspirent, tous ceux et celles qui portent la vie, qui donnent la vie, à tous ceux et celles qui donnent envie. À bientôt.
Je suis dans un tunnel noir, il y a trois motos qui arrivent, j'ai super peur. Oh putain, qu'est-ce que je... Oh la vache, qu'est-ce que je fais là, bordel? Bon, je sors de ce tunnel, c'est absolument affreux. Oh les salauds, quoi. Putain, vite. N'importe quoi, putain. La vache. Alors là, c'était le cauchemar total, quoi. J'ai cru que j'allais mourir. J'ai failli passer du bonheur à la terreur. Ça y est, c'est le bout du tunnel. Je vois à nouveau le soleil. Il y a toujours le soleil. Waouh, je suis sauvé.